Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver dans ce magazine Droit et Citoyenneté. Aujourd'hui, nous allons parler d'enlèvement des femmes et jeunes filles dans les taxis appelés Ketch à Kinshasa. Que faire en cas d'enlèvement? Quelles sont les dispositions légales par rapport à cette pratique criminelle? Restez avec nous et vous allez en savoir plus. Jody Daniel Kachama est au micro, Mimi Kindou à la mise en onde.
Nous sommes ici dans la commune de Bambalungwa avec Inès qui a été victime d'un enlèvement au mois d'avril de cette année.
J'étais au boulot et je rentrais à la maison. Je travaille à Bandal et je voulais prendre mon taxi comme d'habitude. Les transports ce jour-là étaient un peu difficiles. Bon, on était là nombreux à vouloir avoir un taxi victoire. Et j'ai vu un taxi avancer qui ne faisait pas des signes comme d'habitude. Je suis montée dans les taxis. Et j'étais la dernière personne. J'ai trouvé, il y avait un monsieur devant, un autre derrière, une jeune dame au milieu et j'étais la troisième personne derrière. Et puis je vois le gars qui était devant moi sauter sur moi. Et puis au fait, j'ai voulu crier et, ou soit me débattre ou comprendre ce qui m'arrivait. Et puis la dame qui était à côté de moi, je l'ai vu passer devant, le gars qui était devant, venir derrière et ils m'ont
bandé les yeux,
mais juste avec, ils ont utilisé leurs mains en fait. La bouche, les yeux, donc je ne voyais plus rien. Et puis ils ont pris bon, tout ce que j'avais, l'argent, le téléphone, tout ce qu'il y avait dans le sac. À un certain moment, le gars qui était à côté de moi posait la question au chauffeur, maintenant qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Arrivé à un certain moment, je lui ai dit, prépare-toi, maintenant tu vas descendre. Et puis je vois seulement, il ouvre la portière et puis il me dit, si tu oses crier ou si tu oses regarder la plaque ou... Donc ne nous regarde même pas. Toi quand tu es dehors, ne fais rien. Faisait noir, c'était sombre. Même s'il fallait que je regarde la plaque, je n'allais rien voir. Puis ils m'ont laissé descendre de la voiture et ils sont partis. Bon, j'étais en panique, j'étais en train de pleurer, je ne savais pas où j'étais.
Patricia est journaliste. Elle a été enlevée dans un taxi sur le boulevard du 30 juin.
C'est tellement horrible cette histoire, mais on rencontre ça quand même parce qu'il y a des gens qui veulent en savoir. Je revenais du travail et je rentrais à la maison. Alors il fallait prendre un taxi de bon marché. Arrivé sur le boulevard, il y avait un taxi qui s'était proposé lui-même. Écoute, non, on va à bon marché, vous montez, madame. Oui, d'accord, j'ai vu là-bas aussi.
C'était sur l'ex 24 novembre.
Non, même pas. C'était sur le boulevard devant l'arrêt qu'on appelle Vodacom.
D'accord.
Oui. Donc, je suis rentrée.
Vers quelle heure?
C'était vers 18h30. C'est vrai, déjà à cette époque, on avait peur de prendre de taxi là où il n'y avait que des hommes. Mais on ne savait pas encore qu'ils ont commencé à utiliser des femmes aussi pour tromper un peu la vigilance, quoi. J'ai pris mon taxi et j'étais la dernière personne à entrer dans le taxi. J'ai trouvé le chauffeur, il y avait un homme devant, un autre homme derrière et la femme qui était là, juste à ma gauche, et j'étais la dernière personne à entrer. Alors, je voulais déjà ouvrir pour descendre. J'ai pas compris ce qui s'est passé, en tout cas, je sais pas comment expliquer ça. Directement, on m'a pris par mon cou. On a ramené ma tête vers le bas. Et c'est là que j'ai compris que c'était un enlèvement. Et pour moi, je me suis dit, on nous a kidnappés, et moi et la fille. Parce qu'elle aussi, elle pleurait. Non, laissez-nous, s'il vous plaît, on est vos sœurs, tout ça là et tout. Bon. Moi, je leur dis, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais laissez-nous partir. On est vos sœurs. Ne nous faites pas du mal. En tout cas, s'il vous plaît. Non, on n'a pas besoin de vous laisser. Nous, on nous a envoyés. Comme c'était à la veille des élections, ils disent que non, ce sont des Bakondi qui veulent que nous ne leur ramenions
de sang,
qu'on puisse leur amener des sacrifices. Ce n'est pas nous. Alors, si vous voulez qu'on vous libère, vous n'avez qu'à nous donner $5,000 à chacun. Moi, je leur ai dit, je n'ai pas cet argent. Si tu n'as pas cet argent, tu vas mourir ce soir. J'ai dit, ok, si c'est la volonté des dieux, ok, je mourrai ce soir parce que je n'ai pas $5,000 à vous donner. Est-ce que tu n'as même pas quelqu'un que tu connais qui peut nous donner l'argent auprès de qui nous pouvons aller pour demander cette somme? J'ai dit, je n'ai personne. Ok, comme tu n'as personne, on va voir. Dans ton sac, tu as combien? Bon. Avec cette peur-là, c'est la première fois, j'ai tremblé un peu. Et on te posait la question, ta tête était en bas, tu pouvais rien voir, tu vois même pas la route, tu vois même pas là où vous partez. Ils ne te laissent même pas les regarder, quoi, parce que tu vas retenir leur visage, mais Dieu merci. Quand même, avant d'entrer, j'avais fixé le chauffeur, je l'ai connu, j'ai retenu son visage, et la fille qui était juste à ma gauche.
Celle qui était complice et qui donnait l'impression
d'être victime,
d'être victime avec toi.
Voilà. Alors, quand nous sommes partis, je ne savais même pas, je ne sais même pas quelle route ils ont emprunté pour m'amener jusqu'à Limité, première rue, avant de me relâcher. Ils ont demandé de l'argent, je n'en ai pas. Et qu'est-ce que tu as dans ton sac? Tu as combien? Je crois que j'avais une affaire de 50 dollars et 30 et quelques mille francs congolais. Ça, c'est rien. Attends. Après, ils m'ont dit, non, tu as combien dans ton compte M-Pesa? J'ai rien. Comment ça, tu n'as rien dans le code? Là, celui qui était chauffeur, subitement, c'est lui qui était maintenant à ma droite. Ils ont commencé à te poser des questions bizarres. À la maison, tu as combien? On va venir prendre l'argent que tu as. Bon, quand ils m'ont déposé, ils ont dit que comme la fille a dit, elle a 2000 dollars dans son compte.
C'est ce que l'autre fille a affirmé.
Oui, elle a 2000 dollars dans son compte. Et quand ils m'ont relâché, ils ont dit, bon, comme toi, tu n'as rien, on te laisse. On continue avec elle. On va aller chercher la banque à 21h, s'il vous plaît. On va aller chercher la banque, comme ça, on va prendre son argent et puis on va la laisser. Et c'est là, maintenant, qu'ils m'ont relâché. Ils ont dit, écoute, tu ne lèves pas ta tête. Tu descends, mais la tête courbée.
Là, c'était
tu
où?
Tu ne nous regardes pas. Ils m'ont laissé devant Dispromalt. Mais sur la principale, parce que c'est un peu isolé.
À Limité.
Oui, à Limité, c'est un peu isolé.
Première rue.
Oui, première rue.
L'association des chauffeurs du Congo, ASECO en sigle, affirme que ses membres ne sont pas impliqués dans ces cas d'enlèvement à Kinshasa. Ferouzi Félix, secrétaire administratif provincial de l'ASECO.
Cette histoire remonte, je crois, du gouverneur Kimbuta. Kimbuta, qui avait pensé bien, décoloré en jaune. Il avait demandé que l'on puisse numéroter.
Chaque taxi.
Et taxibus. Nos chauffeurs sont allés là-bas, ils ont cherché des numéros. Ils ont coloré. Au niveau de la division urbaine des transports et voies de communication, ces chauffeurs-là ont été enregistrés. Les propriétaires de véhicules ainsi que les adresses irrelatives ont été aussi enregistrées. Les bandits qui opéraient avant la couleur jaune, ils ont compris finalement que oh, c'est la couleur, mais qu'est-ce qu'il faut pour que nous soyons confondus avec les autres? Il faut aussi la couleur. Nous avons des parkings, dans notre langage, on les appelle sous-sections. Les sous-sections sont subdivisées en lignes. Dans chaque sous-section que vous vous appelez parking, il y a un comité des 8 membres qui gèrent le comité. Alors, ce comité a quel travail? Tous les véhicules, tous nos chauffeurs qui fonctionnent, par exemple, qui font matetezando, sont enregistrés. Ils sont connus de nous. Il appartient maintenant en aval à la police, par exemple, de traquer et de nous faire venir pour que nous puissions constater s'il s'agit de notre membre ou pas.
Mais dernièrement, on avait arrêté certains. Est-ce que vous étiez parti pour...
Nous sommes allés là-bas. C'est pas nos membres. Et ce ne sont pas des chauffeurs, des transporteurs réguliers.
Les victimes des enlèvements dans les taxis Ketch à Kinshasa sont nombreuses. Suzy, fonctionnaire de l'État, a été enlevée vers la station Macampagne. Elle nous raconte son cauchemar.
Je devais aller à une fête et j'ai quitté la maison aux alentours de 20h, 20h30. Un taxi s'est pointé devant moi, allant vers Bandal. J'ai pris le taxi, j'étais extrêmement fatiguée. Je n'ai pas prêté attention aux personnes qui s'y trouvaient dedans. Néanmoins,
il y avait combien de personnes à l'intérieur?
Il y avait 3 personnes. Le chauffeur, une fille et puis un monsieur derrière. Arrivé vers le pont Makelele, j'ai remarqué que toutes les vitres étaient remontées du véhicule, les vitres fumées. Le chauffeur a activé le verrou central. Dans ma tête, directement, j'ai compris que j'étais enlevée. Et à ce même moment, le monsieur qui était à côté de moi a sauté sur moi en m'étranglant et en me ramenant à terre pour me dire de faire silence. Et me menaçant, le chauffeur disait des insultes, des insanités à mon sujet et la voiture continuait à rouler. Je ne savais pas où on allait. Entre insultes, menaces, le monsieur a pris mon téléphone, a demandé le code de déverrouillage et il est directement allé sur M-Pesa pour voir combien j'avais sur M-Pesa. Entre-temps, il a pris mon petit sac, il a donné à la dame qui était devant pour contrôler. Il est allé dans mes messages MPSA. Il a évidemment vu que la veille, j'avais fait sortir beaucoup d'argent. Il s'est exclamé, « Bimisi bambou me bele boye !» Je ne faisais que pleurer. À un certain moment, le monsieur a commencé à poser des questions personnelles sur moi. Si j'avais des enfants, je lui ai dit que j'avais deux enfants. Si j'avais un mari, j'ai dit que j'étais veuve. Tout ça là, c'était inventé sur place, juste pour
qu'on te laisse partir.
Qu'on me laisse partir. En fait, faire naître de l'empathie. Et ça a marché, heureusement pour moi. Entre-temps, il a eu des gestes déplacés, mais menaçant de mort et de viol. Et on m'a déposé, au fait, vers le petit collège. Là, ils m'avaient remis mon sac. Ils ont pris mon téléphone avec 1000 francs pour que je paye le transport.
Écoutons également les témoignages de Corinne Yaoné, enlevée du côté de Batetela sur le boulevard du 30 juin. Elle avait passé un mauvais quart d'heure.
Ce jour-là, je revenais de Royal. Je devais voir une amie pour lui remettre un petit colis. Et à mon retour, elle me raccompagne, elle me dit qu'il y a un petit raccourci qui ressort vers Batetela. Et alors, elle me raccompagne jusqu'au coin et je lui dis, bon, ok, moi je traverse pour prendre le taxi de magasin parce que je devais me rendre à ma campagne. J'entre. Il y avait la jeune fille, un autre jeune garçon à l'autre coin de la portière, un autre devant et le chauffeur. En arrivant sur le pont de Mondjiba, les vitres commencent à monter.
Et c'était des vitres fumées.
Les vitres fumées.
Oui.
Un taxi avec le numéro aussi. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est de faire descendre. Je voulais dire, mais chauffeur, Ozo Matissa vitre Ponanini, le temps de finir ma phrase, je vois un mouvement qui se fait rapidement. J'ai rien compris. La fille qui était à côté de moi laisse sa place à celui de devant. Et dès qu'elle se lève, celui qui est au fond, il me tire vers lui et commence à me donner des coups de poing et à commencer à m'étrangler en tirant
sur la pomme d'Adam.
Ma pomme d'Adam, oui. Ça m'empêchait de respirer. Ils ont commencé à me donner des coups de poing et commencé à me poser des questions et commencé à m'insulter. D'où tu viens? Dis-moi, est-ce que tu t'appelles Niclette? J'ai dit non. Est-ce que tu as un tatouage sur le dos? Non. Tu viens d'où? Tu vas où? J'ai dit je rentre chez moi. Je rentre à ma campagne. Je vais prendre mon bébé, parce que j'avais dit que j'avais un enfant de 3 mois, juste pour me laisser tranquille. J'ai dit, non, j'ai laissé mon bébé à la maison chez ma mère depuis 16 heures. Et je devais même normalement l'allaiter. Oh, mais écoute, bon, nous, on est des services spéciaux. On recherche une fille qui a fait des problèmes et tout. Tu ressembles à cette fille, mais est-ce que tu as un tatouage sur le dos? Il a demandé à l'autre de vérifier si j'avais un tatouage sur le dos. Et j'ai même dit, non, s'il vous plaît, j'allaite. Et l'autre, il avait quand même un peu peur, si je peux dire, ça l'avait un peu fatigué, le fait que j'ai dit que j'ai
vous avez un bébé, vous êtes en train d'allaiter, oui.
Alors, il a juste soulevé un tout petit peu ma chemise, et puis il a dit, non, elle n'a pas de tatouage, elle n'a pas de tatouage. Et puis, ils ont commencé à me poser des questions. Tu as combien dans ton sac? En francs, en dollars, je dis en dollars, j'ai à peu près 180 $, et en francs, j'ai dit je ne sais pas, tape là, il m'a frappé. Je réponds à la question, j'ai dit non, les francs c'est difficile de savoir combien on a. Et après, l'autre dit oui, c'est vrai que les francs c'est difficile de savoir, je vais voir moi-même. Et là, je ne voyais toujours rien, j'étais la tête baissée toujours sur les cuisses de l'autre. Et les yeux bandés. Alors, il vérifie, il voit mon téléphone, il me demande si j'ai un compte M-Pesa. J'ai dit oui, j'ai un compte M-Pesa et tu as combien?
Tu as combien dans ce compte?
Dans ce compte,
oui.
J'ai dit bon, je sais pas, à peu près une dizaine de dollars. Ok, ça va, on peut avoir ton mot de passe. Je donne, parce que déjà, je me dis déjà, ce qu'ils ont pris, c'est beaucoup plus que ce qu'ils avaient sur M-Pesa, donc oui. Je ne peux pas poser résistance.
Et quand vous avez dit j'ai autant de dollars, immédiatement, ils ouvrent les sacs et ils prennent l'argent.
Ils ouvrent le sac. Et là, je ne voyais pas. Je sentais, parce que c'était un sac bandoulière, donc un sac où on fait passer autour. Et je sentais seulement que mon sac était en train de bouger, sans voir. Et après avoir fouillé toutes les poches, le téléphone, ils me remettent tout et puis ils me disent, ok, ça va, on a fouillé, tu n'as rien de grave, c'est vrai que tu n'es pas la fille, mais ce qu'on va te demander, c'est que quand on va te descendre, ne crie pas, ne fais aucun bruit. J'ai dit, je n'ai pas de problème avec vous, je ne vous connais pas et je ne vois pas pour la raison pour laquelle je vais crier. Moi, mon souci, c'est de revoir mes enfants, de rentrer à la maison sain et sauf. Ils ont fait moins 10, 15, non, ils m'ont pris à 18h moins, vers la tétée là. Ils ont fait à peu près une heure avec moi à aller à gauche, à droite. Je voyais toujours rien.
En train de circuler dans la ville.
À un moment, j'ai quand même pu voir. J'ai vu qu'on s'était retrouvé à l'immeuble inachevé qui est à la gare centrale. L'immeuble Rakin, je crois, qui était Rakin, qui est toujours en chantier là.
Oui.
Oui, j'ai vu. Et je me suis dit, bah, t'étais là. Donc, on était en train de sillonner dans la commune de la Gombe. On est ressorti sur le boulevard.
Là, c'était vers quelle heure?
Déjà 19h passées.
19h passées.
Oui. Et il y a un qui me dit, bon, ok, bon, comme tu es calme, on va te remettre à ta position initiale. Donc, on te remet au niveau de la portière. Et ne crie pas, laisse-toi faire. Je dis, ok, je ne vais pas crier. Il me redresse, il me dit, mais regarde, talanase, écoute, talanase, kangamisu. J'ai fermé les yeux, il me redresse, il me fait passer à la portière où j'étais quand je suis entrée, et puis il me demande de mettre la tête en bas, de regarder, de ne pas regarder où on va. Je mets la tête en bas, et voilà. À un moment, ils ont circulé encore 10-15 minutes encore. Après, ils m'ont dit, et puis il y a un qui a dit, ah, ici, il n'y a personne, on la dépose là. Et puis il me dit, descends doucement et ne crie pas. J'ai obtempéré jusqu'à la fin.
Et vous êtes descendu où est-ce qu'on vous a déposé?
Au niveau d'Afrisel, juste devant Afrisel, sur l'avenue de la Justice.
Du côté de la police, le général Silvano Kasongo affirme que la police travaille pour mettre hors d'état de nuire tous ces malfaiteurs opérant dans des faux taxis jaunes à Kinshasa. Il est au micro de Billy Yvan Lutumba.
On a eu 32 plaintes. Les gens qui étaient victimes sont venus et qui ont reconnu ces visages-là et la confrontation. Ces gens sont passés aux aveux. C'était vraiment nécessaire. On les a déférés. Ils sont partis à la justice. Maintenant, la justice fera son travail. Parce qu'il y a des plaignants ou des plaignantes. Tous les éléments ont été réunis. Ils ne vont pas s'échapper.
Quelles sont les mesures pour décourager ces cas d'enlèvement au niveau de la police actuelle?
Nous allons commencer à faire des roadblocks mobiles de temps en temps. Brusquement, comme ça, on met roadblocks, on fouille les véhicules. Nous avons la police criminelle avec des dénonciations avec nos services. Nous sommes en train de traquer les criminels. Pas plus tard qu'avant-hier, on a arrêté deux qui sont en train de passer aux aveux. Nous avons pris des mesures. D'autres mesures, c'est concernant les taxis jaunes qui ont des vitres teintées. On les a donné une semaine. On venait de faire une réunion tout à l'heure avec la SECO. On a donné une semaine à tous ces gens-là d'enlever les fumeux. Mais si vous avez des véhicules avec des vitres teintées d'origine, on a pris notre mesure, c'est de baisser les vitres. Si on voit ta voiture à des vitres teintées, vous n'avez pas baissé les vitres, on vous arrête. Qu'est-ce que font les bandits? Les bandits prennent les femmes. Généralement, c'est 100% les femmes parce qu'elles sont vulnérables. Les vitres sont teintées. Ils mettent la musique. Comme ça, même si la femme est censée se débattre, personne n'est en train de crier, personne ne va entendre. Vous allez vous entendre que la musique et vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur.
Et quelle est l'attitude que doit afficher ou le comportement des nos sœurs qui sont souvent les principales victimes quand elles doivent prendre place dans des taxis?
Nos sœurs, nous avons dit plusieurs fois, avant de monter dans une voiture, prenez les numéros. Vous avez des téléphones. 95% de nos sœurs ont des téléphones. Prenez les numéros, filmez le numéro, puis prends la photo du numéro, de la plaque, le numéro d'identification. Tu envoies quelqu'un. S'il y a un problème, on va recouper, on saura que ce véhicule appartient à telle ou à telle personne, avec la plaque, avec le numéro de taxi. C'est très important. Crier. Les gens qui sont autour, ils vont intervenir.
Et quels sont les taxis que vous déconseillez?
Mais les voitures, on déconseille à nos soeurs de monter dans une voiture qui n'a pas les numéros. Quelqu'un qui a la plaque, mais le numéro n'est pas visible ou lisible, il ne faut pas prendre de tels taxis. Ce n'est pas parce que vous avez vu une fille dedans, les filles sont complices. Ce sont aussi des bandits qui travaillent ensemble avec les criminels. Il faut éviter de telles voitures qui n'ont pas de numéros. Appelez le numéro de la police. Nous avons le numéro de la permanence qui est le 082. 72 050 00. En cas de détresse, appelez à ce numéro-là, vous aurez une intervention.
La plupart des victimes des enlèvements manifestent des traumatismes psychologiques.
C'était tellement horrible que la scène ne me quittait pas l'esprit. Quand je suis dans un taxi, il y a le cœur qui bat. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après. Est-ce qu'ils sont des bonnes personnes? Est-ce qu'ils vont encore me refaire la même chose? Donc c'est un peu compliqué. On préfère même prendre les motos ou des taxis bus qu'on évitait avant. On le prend maintenant à cause de ça, parce qu'on a tellement peur et on le prend.
C'est dur, hein? J'entre dans le taxi, je fais pas deux secondes le chauffeur avant. Je dis, chauffeur, je descends, je prends le souffle, je me dis, allez Corinne, vas-y, prends encore le deuxième. Je fais le deuxième, même réaction. Et puis je rentre, je dis, non, ça va pas. Ça va vraiment pas. C'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps, ça va faire 2 mois maintenant déjà pratiquement que c'est passé. Mais c'est difficile, vous avez la sensation d'être devenu parano. Quand vous entrez, oui. Quand vous entrez, vous observez tout le monde, même les mamans, vous les observez.
C'est quand même éprouvant et traumatisant. J'ai peur, je regarde et il m'arrive d'avoir des réactions un peu disproportionnées. Le chauffeur a relevé la vitre de mon côté. Et là, j'ai crié. J'ai paniqué et tout le monde dans le taxi a paniqué. Le chauffeur lui-même était en panique. Il ne savait pas pourquoi est-ce que j'avais crié. Et puis, quand je lui ai dit que j'avais été enlevée, ça avait commencé avec les vitres, il m'a dit que c'était par erreur. La personne qui était avec lui devant avait demandé qu'on puisse élever ses vitres. Et par inadvertance, il l'a fait de mon côté. Et c'est comme ça que j'avais réagi. J'ai même pleuré.
Est-ce que vous êtes allé voir un psychologue pour demander de l'aide?
Non, je n'ai pas vu de psychologue. J'ai vécu mon stress avec du sport.
Polydor Tangeli, bonjour.
Bonjour, Jody.
Vous êtes psychologue. Qu'est-ce qui doit être fait pour détraumatiser toutes ces victimes des enlèvements à bord des taxis Ketch à Kinshasa?
Lorsque une personne vit une situation émotionnelle, une situation de choc, il s'accompagne de l'hypervigilance, il s'accompagne d'un comportement d'évitement. Lorsqu'il est en face d'un référent qui lui rappelle l'événement malheureux, il développe des comportements qui ne sont pas des comportements anormaux. Ce sont des comportements normaux liés au choc que nous considérons comme des comportements émotionnels. Ils deviennent anormaux lorsque le seuil de normalité est dépassé. Par exemple, après 2 ans, on continue à afficher ce genre de comportement, l'hyperactivité, l'hyperémotivité, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il fallait d'abord préciser. Alors, pour détraumatiser toutes ces personnes, je crois qu'il y a... l'effort à fournir, c'est d'abord de savoir à qui on a affaire. Il y a la personnalité de tout un chacun qui joue dans ce sens, puisqu'il y a certaines personnes qui y sont des émotifs primaires et d'autres qui sont secondaires. Et à ce sens, ma façon de réagir à un choc pareil dépend de l'expérience antérieure, de ce que je suis moi comme personne. Et c'est sur base de ce qu'est la personne qu'on peut axer une certaine prise en charge. Une prise en charge qui consiste à accompagner la personne vers la normalité.
On a suivi par exemple une dame dire qu'elle élimine le stress, le traumatisme en pratiquant les sports.
Oui, le sport, c'est un élément important pour essayer de se déstresser. Mais faut-il dire ici qu'il y a un cas réel de stress? La situation comme choc a été stressante, mais ce qu'affiche l'individu est émotionnel jusque-là. Il devient un stress lorsqu'il y a une certaine récurrence. Hein? Il y a une certaine récurrence de la même. C'est un événement ponctuel et qui s'est passé et la personne vit encore son deuil. On préfère plus parler du deuil que du stress en pareil cas. Et toutes ces personnes qui évoquent sont des personnes qui n'ont pas encore levé leur deuil. Et la levée du deuil dépend d'un individu à un autre. Par exemple, il y a des comportements délirants qui s'accompagnent, il y a des comportements d'hyper émotivité qui s'accompagnent. Alors, à ce niveau, il faut une certaine prise en charge psychosociale de la personne.
Faut-il porter plainte ou pas après avoir été victime d'un enlèvement? Quelles sont les dispositions légales en cas de kidnapping? Maître Lucie Mouteba, avocate au barreau de Kinshasa Matete.
Alors, la loi n'a pas prévu, hormis les dispositions des arrestations arbitraires et détentions illégales, une catégorie particulière, ainsi que vous l'évoquez, sur les enlèvements des jeunes filles. Ça veut dire que cette disposition s'applique pour toute personne qui se retrouve dans ce cas-là, notamment les jeunes filles. Et donc, l'article 67 du Code pénal prévoit exactement que toute personne peut être puni d'une servitude pénale d'un an à cinq ans si par violence, ruse ou menace il enlève ou fait enlever, arrête ou fait arrêter, détient ou fait détenir quelqu'un sans son consentement. Et donc les personnes qui se retrouvent dans ces circonstances, je crois que cette disposition s'appliquerait bien en faveur des victimes.
Et s'il y a eu par exemple vol, ils ont pris de l'argent, ils ont pris le téléphone et tout ce qu'il y avait dans le sac, est-ce que la peine sera doublée ou bien elle reste la même?
Là, on se trouve dans un cas de concours d'infraction. Ça veut dire que non seulement que vous avez été enlevé, détenu, mais vous vous retrouvez également dans une circonstance où on vous a ravi vos cartes bancaires, de l'argent. Il y a plusieurs infractions qui peuvent qualifier cette succession, voilà, des faits. L'extorsion, par exemple, les coups et blessures pour ceux qui sont victimes de ça. Et donc, ces faits-là peuvent être qualifiés de plusieurs infractions. C'est la peine la plus forte qui sera appliquée.
Et généralement, dans notre pays, lorsqu'il y a des cas comme ça, les victimes préfèrent ne pas aller se plaindre. On a suivi dernièrement que l'inspection de la police avait même publié dans les réseaux sociaux les photos de ces malfaiteurs, demandant aux victimes de venir porter plainte. Mais certaines sont parties, d'autres hésitent parce qu'après, on va vous demander de l'argent pour mener des enquêtes et mettre la main sur ces gens-là.
La réalité est bien triste et maintenant, c'est à tout l'appareil judiciaire de s'activer pour pouvoir motiver les gens à avoir de nouveau confiance à la justice congolaise, dit-on. La justice élève une nation. Mais bon, si je devais placer un mot, j'encouragerais les victimes à aller porter plainte parce que c'est l'un des moyens le plus efficace pour pouvoir mettre fin à ces genres de pratiques.
Où faut-il aller? Faut-il aller à la police ou bien il faut aller directement au tribunal?
On peut aller directement au tribunal, comme par la police qui, par des OPJ, représente l'œil et les bras du ministère public. Ça veut dire que si vous allez par la police, vous passerez par le parquet et puis le parquet va fixer le dossier devant le tribunal, avec l'avantage que le parquet a déjà mené des enquêtes et amène un dossier bien constitué, généralement devant le tribunal, et le soutient très bien. Quand vous allez devant le tribunal, vous avez la charge et la preuve vous-même. Donc, voilà.
Alors, quelle preuve on peut fournir dans ces cas-là? Parce que la personne peut nier.
Dans l'administration de la preuve en droit congolais, il y a quelques moyens qui peuvent permettre au juge ou même au ministère public de pouvoir retrouver la traçabilité des faits. En matière pénale, le juge est très actif. Donc, il peut prendre l'initiative de certaines preuves. Ce n'est pas toujours évident de nier, de continuer à nier après plusieurs audiences et de rester cohérent. Il y a des preuves par présomption, il y a des preuves par témoin. Donc il y a possibilité, en dépit du fait que le prévenu ou l'inculpé, selon le cas, nie les faits, il y a toujours moyen de retracer les choses.
Un conseil à toutes les victimes. Certaines sont découragées, préfèrent rester à la maison et disent « Dieu, Dieu lui-même va s'occuper de ces gens-là. »
Dieu a permis également qu'il y ait un appareil judiciaire pour chaque nation. Et donc si les victimes, vous qui êtes victimes des enlèvements, des détentions illégales, si vous ne le faites pas pour vous, si vous n'allez pas en justice pour vous, faites-les ne serait-ce que pour les éventuelles victimes prochaines qui peuvent être vos proches, et pensez aux circonstances aggravantes de ces genres de pratiques. Ça peut conduire à la mort, ça peut conduire à d'autres pratiques plus déplorables. Et donc tout ceci pour résumer tout simplement ma pensée, selon que allez-y quand même devant la justice et ne laissez pas impunis ces genres de pratiques qui se répètent.
Fidèles auditeurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine Droit et Citoyenneté sur les enlèvements des femmes et jeunes filles dans les faux taxis jaunes à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.